souhaite une excellente soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 18 septembre 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la dissidence, bonsoir. Nous recevons ce soir Marc Filterman, mais je vous rassure, on ne va pas encore interviewer, quoique on pourrait parler longtemps du sujet qu'il a évoqué la semaine dernière, les armes de l'ombre, on en parlera peut-être brièvement, mais je ne l'ai pas invité par tic, par habitude, je l'ai invité parce qu'il a amené dans ses bagages un autre intervenant qui s'appelle Jean-François Gomer et qui s'occupe d'un dossier tout à fait intéressant qu'on pourrait appelé le dossier du scandale du faux chômage ou le scandale de l'arnaque au chômage. Comment peut-on dire, si vous parlez bien dans le micro, on vous entendra, il faut le remonter le micro, voilà. Voilà.
Bon, ben le chômage, c'est un véritable scandale, c'est voulu, c'est géré, c'est organisé, c'est pour créer un fonds de commerce à succursales multiples, aux enseignes des partis politiques, des syndicats, des associations, des organismes de formation et des... j'en passe.
Des meilleurs.
Oui.
Voilà. Ensuite, nous recevrons le docteur Dor, mais brièvement. Et avant, un petit tour de l'actualité. Alors, avant, il faut quand même que je vous donne, pardon, des nouvelles de Victoria, que je viens d'avoir au téléphone et qui est en pleine forme, si tant est qu'on puisse être en pleine forme après une intervention chirurgicale. Mais apparemment, ça s'est très bien passé. Elle a une très bonne voix. Et elle m'a demandé de saluer les auditeurs de Radio Courtoisie en son nom. Voilà, la chose est faite. Et nous lui souhaitons de sortir rapidement de cet hôpital où elle est très bien sans doute, mais enfin on est mieux dehors. On apprend, l'actualité nous apprend que M. Papon est remis en liberté. Et apparemment, ça suscite des protestations d'ordre divers. Et c'est intéressant parce que on voit que c'est vraiment, on sent vraiment une espèce de d'acharnement extraordinairement haineux contre ce pauvre vieux monsieur. 90 ans, on ne pense pas qu'il va sortir pour aller en boîte. Et d'ailleurs, le refus qui avait été opposé récemment à sa mise en liberté était fondé sur, c'était quand même assez rigolo, sur le fait, disait la juge qui avait refusé la mise en liberté, qu'il il ne donnait pas des gages suffisants de réinsertion. Je pense qu'elle devait redouter qu'à peine sorti de tôle, il aille taper une petite vieille pour lui piquer son sac à main et s'acheter quelques doses d'héro. Et donc, elle préférait le garder en prison. Et ça n'a pas marché. La Cour d'appel de Paris a décidé que l'état de santé de M. Papon était incompatible avec sa détention. Ce qui arrache à certains des commentaires tout à fait intéressants sur le fait que il y a même un des commentateurs qui n'est pas très chrétien et puisqu'il pratique pas le pardon et qui dit que les jurés lorsqu'ils ont condamné M. Papon à 10 ans de prison avaient dû compter sur son âge et penser que comme ça il mourrait en prison. Alors c'est un aveu extraordinaire de la fausseté du système, parce que quand on veut que quelqu'un meure en prison, on le condamne à perpétuité, à une peine non compressible et une peine de prison avec, comment dit-on maintenant, impossible, enfin,
peine
de sûreté, c'est ça, de 18 ou de plus. Mais ça aurait choqué si on avait fait ça. Donc ils n'ont pas osé le faire, ils l'ont condamné à 10 ans en disant, bah, comme il a 85 ans à peu près, on a des chances pour qu'il y reste. Manque de bol. Le vieux persiste, comme disait la célèbre coquille journalistique. Et voilà qu'il n'est pas mort en prison, il est sorti. Et alors, les gens qui le poursuivent de leur haine vigilante ont immédiatement publié un communiqué en donnant l'adresse à laquelle il allait se retirer pour finir ses jours, hein, ce qui naturellement va lui rendre l'existence très agréable. Je salue donc l'humanité de ces gens-là, qui sont en général d'ailleurs tout le temps en train de donner des leçons d'humanité, d'humanitarisme, de charité pas chrétienne. Et là, ils donnent un témoignage tout à fait intéressant de la façon dont ils pratiquent leurs propres conseils. Il y a une autre information qui est amusante, c'est l'histoire de la bignole de l'Élysée. Alors, ça, c'est tout à fait rigolo. Le 10 juillet, dans la rue de l'Élysée qui jouxte le palais résidentiel, vers 22h50, nous dit Le Monde, le couple Chirac entend le cri d'une femme qui lui fait suspecter une agression. Bernadette sort alors dans la rue et apostrophe, enfin vraiment vous rendez compte, la femme du président de la République, elle entend crier dans la rue, elle sort. Lui il aurait pu sortir aussi en charentaise avec une batte de baseball pour voir moi. Elle sort probablement en chemise de nuit, en bigoudi, et elle apostrophe un gardien de la paix et elle découvre en place d'un sanglant fait divers un chahut de potache. Deux policiers facétieux ont chatouillé un peu vivement une de leurs collègues. C'est-à-dire que les gars, ils sont quand même pas très très fut-fut parce que ils sont de garde devant l'Élysée et ils jouent à papouille avec la copine. Bon, alors ça doit être des jeunes poulets qui s'ennuyaient. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Eh bien si, il y a de quoi fouetter un chat parce que la bignole de l'Élysée, pas contente du tout, dit qu'elle va en parler à qui de droit. Elle rentre et elle dit à Jaco, mon Jaco, tu imagineras jamais ce que j'ai vu. C'est un scandale. Et Jaco, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Écoute, Bobonne, t'es bien gentil, mais j'ai quand même autre chose à penser. Eh bien, il demande à son cabinet, pas le cabinet de l'appartement, le cabinet présidentiel, de faire le nécessaire. Et le lendemain matin, le préfet de police de Paris, Jean-Paul Proust, qui m'est cher, bien entendu, alerté par le cabinet du président de la République, demande à l'inspection générale des services de faire un rapport. Et l'inspection générale des services mande une équipe qu'on appelle des bœufs-carottes, c'est-à-dire des flics qui fliquent les flics, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, on n'auditionne pas Madame Chirac, décidément, on ne pourra jamais l'auditionner, celle-là. Et simplement, on fait un rapport dont la version définitive n'a pas encore été remise officiellement à M. Proust, nous dit Le Monde. Mais rapport qui constate, alors là ça vaut 10 000, que ce n'est pas une affaire d'État. Hein, évidemment, deux flics qui font des papouilles à une troisième fliquette, on ne peut pas dire que ça soit quand même le scandale du siècle. On est assez loin des scandales de pédomanie. Ça vaut même pas l'affaire des HLM de la mairie de Paris. Hein. Bon, et ça a révélé un certain laisser-aller dans la tenue des fonctionnaires, nous dit le rapport de l'IGS, de l'Inspection Générale des Services. Et des sections mineures sont prévues, telles la mutation des services, des fautifs dans d'autres services. Je sais pas s'il y a un service papouille dans la police parisienne, mais s'il y en a, ils ont un poste tout trouvé. Alors, on rêve, ma parole. On est dans un pays où le chaos est généralisé. Absolument généralisé. N'importe quelle bande de hors-la-loi peut aller occuper la basilique Saint-Denis, personne ne bouge un poil de moustache, je suis poli. C'est le bordel général permanent. Tout le monde se fout de tout, personne ne respecte aucune loi, personne ne respecte aucun règlement. Dans les trains, les gars, le circule sans billets, les murs sont tagués, on ne peut pas sortir après 10 heures du soir sans être sous la menace d'une agression. Y a deux trucs qui préoccupent le pouvoir. D'une part, c'est si vous ne roulez pas à 132 km/h sur l'autoroute, parce que ça c'est quand même, vous êtes un criminel, hein. Et deuxièmement, si vous faites des papouilles à votre collègue en montant la garde devant l'Elysée. Et la bignole de l'Elysée descend dans la rue pour voir ce qui se passe, et elle cafte à son mari, qui cafte à son cabinet, qui cafte au préfet de police. Non mais, vraiment, on est un pays de dingo, ma parole. Ils sont tous malades dans ce pays. Et alors, c'est pas tout. C'est pas tout, comme disait la chanson. Il y a autre chose que nous raconte Le Monde, et paraît-il Le Canard, je ne lis pas Le Canard, c'est que il y a un type qui a pété un boulon, il a pris un coup de calgon, et il a envoyé un email à l'Élysée en disant, alors voilà, Julien, hein, donc un courrier électronique insultant adressé au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle par un électeur à Jacques Chirac et indirectement à son épouse qualifiée de rombière. C'est tout gentil, une rombière. Il a dû lui dire, vous n'allez pas dégager, toi et ta rombière, enfin un truc comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'auteur de la lettre a été convoqué au commissariat du 19e arrondissement. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le 19e arrondissement. C'est une annexe de l'enfer. Le 19e arrondissement, si vous sortez après 10 heures du soir, vous êtes mort. C'est pas compliqué. C'est le royaume de la drogue, le royaume de l'agression dans la rue. C'est incroyable. Enfin, Eh bien, le commissariat, qui n'avait évidemment que ça à foutre... D'ailleurs, pour vous dire à quel point ils ont que ça à foutre, il y a quelques années, ma charmante épouse a été agressée dans notre maison du 19e arrondissement. Par deux messieurs, enfin un seul qui avait réussi à sauter le mur, l'autre était resté dans la rue, par un monsieur qui revenait probablement de vacances parce qu'il était vraiment très bronzé. Il a essayé de l'étrangler, elle a été sauvée par miracle. Je suis allé au commissariat du 19e arrondissement, où on a refusé d'enregistrer ma plainte. On m'a proposé de faire une main courante. Vous savez ce que c'est qu'une main courante? Après, on déchire les pages et on s'en sert dans les cafouins. Alors, pour une tentative d'assassinat et tentative de viol, avec escalade et effraction, on vous fait faire une main courante. Mais si vous écrivez un email dans lequel vous appelez Madame Chirac, la bignole de l'Élysée, une rombière, vous êtes convoqué au commissariat du 19e arrondissement, et vous devez longuement vous expliquer sur ce dérapage verbal, ce qui est d'ailleurs pas un dérapage verbal, mais un dérapage scriptural, puisqu'il s'agit d'un email, et on pourrait même dire un dérapage informatique. Et voilà. Alors, quand on sait comment se passe un interrogatoire, surtout là, comme il s'agissait de la bignole, il a fallu faire venir le commissaire adjoint, peut-être même qu'on a envoyé quelqu'un directement de la préfecture, et on a longuement interrogé le type. Je ne sais pas ce qu'on a pu lui demander longuement, parce qu'on avait sa lettre, on a dû lui dire « c'est vous qui avez envoyé le message ?» Il a répondu « oui ». Voilà, c'est pas longuement ça. va savoir ce qu'ils lui ont demandé après. C'était pas un message empoisonné, vous aviez pas l'intention d'assassiner le président de la République en envoyant des messages chargés de, peut-être avec une saupoudrée de, un message électronique saupoudré de charbon, là, d'anthrax, on sait jamais, 5 minutes d'anthrax. Voilà. Et alors l'Élysée fait savoir maintenant. Vous allez voir qu'on s'occupe de. On est à deux pas, à deux minutes d'une guerre mondiale. Si ça se trouve, d'ici une semaine, le monde entier est à feu et à sang. Eh bien, l'Élysée a cru nécessaire, après avoir fait sanctionner les policiers papouilleurs, les PP, a donc cru bon de faire savoir que la Bignole n'était pour rien dans cette affaire. Parce que, alors là, je vais vous donner une information, chers auditeurs. Si vous faites partie des gogos qui écrivent à l'Élysée en croyant qu'on s'intéresse à votre courrier, on vous fait savoir que l'épouse du président de la République n'est pour rien dans ce branle-bas policier, indique l'Élysée, et pour cause, elle ne lit jamais son courrier. Donc, quand vous avez écrit une lettre à la Bignole, vous la prenez, vous la chiffonnez, vous la foutez dans la poubelle vous-même, comme ça vous économisera un timbre, et puis si vous aviez envie d'injurier, ça vous évitera d'être convoqué au 19e, donc commissariat du 19e, pour savoir si vous l'avez bien appelé la Rombière. Je signale d'ailleurs au renseignement général, s'il m'écoute, que moi qui l'appelle la Bignole, c'est pas la peine de me convoquer, parce que je vous confirme, en direct, par l'intermédiaire du micro, que pour moi, une dame qui en pleine nuit sort probablement en chaussons, en nuisette et en bigoudi pour voir qui a crié dans la rue, ça s'appelle une Bignole, surtout quand elle appelle la police immédiatement. Voilà, mais enfin, tout ça sera probablement bien dérisoire le jour où Saddam Hussein nous enverra une de ses 360 000 bombes atomiques qui fabrique, comme d'autres fabriquent des petits pains. Vous vous rendez compte quand même que Saddam Hussein a la bombe atomique alors que Israël ne l'a pas. Hein ? Officiellement, en tout cas. C'est... Voilà, alors... Il y a eu autre chose qui a provoqué un énorme terremoto, comme disent les Italiens, le scandale du siècle, le deuxième, juste après la Rombière, c'est l'affaire du curé de Saint-Denis qui s'est mangé une tarte à la crème. Il y a des gosses, des gamins, qui sont allés à Saint-Denis, et le curé Berger, le camarade curé Berger, qui avait fait venir les hors-la-loi, et qu'ils avaient installé dans la basilique, qui est quand même la nécropole royale, c'est une profanation de cimetière à laquelle il s'est livré par complicité. Au lieu d'aller lui casser la figure, ce qui n'aurait pas été volé à mon avis, ils sont allés lui coller une tarte à la crème en pleine poire. Ils s'étaient arrêtés là, ils se sont sauvés. Alors, Le Monde hier nous dit qu'ils l'ont agressé avec de l'encre, je ne sais pas ce que ça veut dire d'agresser quelqu'un avec de l'encre, ils ont peut-être fait un papier désagréable, une tarte à la crème et des gaz lacrymogènes. Il n'y a eu absolument aucun gaz lacrymogène, c'est pas vrai du tout. Et qu'ils ont été identifiés par les renseignements généraux. Ce qui veut dire que plus d'une semaine après, qu'est-ce que je dis plus d'une semaine, 15 jours après l'affaire des hors-la-loi, des immigrés clandestins hors-la-loi qui se sont installés à Saint-Denis, il y a encore des poulets des renseignements généraux qui montent la garde devant cette église pour savoir ce qui s'y passe. Ça sert à rien puisqu'ils n'ont jamais été foutus d'empêcher les clandestins hors la loi d'y entrer. Et donc on se demande pourquoi ils sont là. Ils sont peut-être des papouilles dans la journée, on ne sait pas. Hein. Il faut bien qu'ils s'occupent, ces braves gens. Surtout s'il y a des jeunes filles dans les renseignements généraux, je ne sais pas. Des RG, des rombières gracieuses. Mais on a immédiatement interpellé les quatre des jeunes gens qui s'étaient livrés à cette agression intolérable. Et ils doivent être en garde à vue, ils vont passer 48 heures en garde à vue, ensuite ils vont être condamnés à probablement une lourde peine. Et je signale quand même que ce sera la première fois. Il y a un type dont c'est le métier pratiquement d'entarter les gens, le Belge. Là. Il a entarté tout le monde, il n'a jamais eu le moindre problème, il n'a jamais eu ne serait-ce qu'une amende. Si, il a eu une amende, dites-moi ça, Gommier. Parlez dans le micro, parce
qu'il n'y a pas longtemps, j'ai...
Démentissez-moi, comme on dit.
Non, j'ai pas l'intention de vous démentir, parce que j'ai pas le souvenir de la date à laquelle ça s'est produit, mais j'ai vu qu'une émission de télévision sur laquelle il a été poursuivi pour avoir entarté, je sais plus quel homme politique, et je crois même un acteur, mais enfin bon, il aurait eu des problèmes.
Ah bon. Bien, alors je retire ce que j'ai dit, alors. En tout cas, les quatre, ils sont probablement en garde à vue, et ils vont probablement être condamnés. Alors, certains me disent, parce qu'on a beaucoup correspondu par email, là-dessus. Je signale d'ailleurs, que si on veut m'écrire directement par email, j'ai maintenant une adresse qui est quoi d'ailleurs ? Ah oui, francecourtoise@ifrance.com. francecourtoise@ifrance.com. Donc si vous voulez m'envoyer des injures, par exemple, vous pouvez le faire parfaitement. Moi, contrairement à la bagnole, je les lis, mes courriels, voilà. Et donc on a beaucoup correspondu là-dessus, et des gens m'ont dit, j'ai vu par exemple que Molitor, dans Minute, trouvait ça scandaleux, et prétendait que ces jeunes gens ne pouvaient pas être des royalistes, parce que on ne fait pas ce genre de choses. Et un des arguments, c'est de dire que... Ça porte atteinte à la, au vêtement sacerdotaux ou à la dignité sacerdotale. Moi, je veux bien, mais le premier qui porte atteinte à la dignité sacerdotale, c'est un curé qui transforme son église en lieu de meeting politique. C'est un curé qui fricote avec l'extrême gauche la plus violente, les gens du scalp, les gens de Ralfron. Et c'est un curé qui a un passé pour le moins bizarroïde, puisque il était au Cambodge au moment où les Khmer Rouges ont pris le pouvoir. Et alors que la plupart des gens qui sont tombés dans les griffes des Khmer Rouges sont restés en camp pendant 4 ans, lui, il a été, il a reçu son visa de sortie au bout de 3 semaines. C'est un agitateur, ce curé. C'est son droit, hein, d'être un agitateur, de profiter de son statut de curé pour semer la zizanie à droite à gauche et pour faire de l'activisme politique d'extrême gauche. C'est parfaitement son droit. Cela dit, il ne faut pas qu'il revendique après le respect qui est dû à des prêtres, parce que quand il se comporte comme un prêtre, on lui doit le respect. Quand il se comporte comme un voyou d'extrême gauche, comme un militant de la subversion internationale, eh ben on le traite comme un militant de la subversion internationale. Je signale d'ailleurs que une tarte à la crème en pleine poire pour un militant de la subversion internationale, c'est quand même pas grand-chose. Quand on pense aux armes que eux utilisent, les militants de la subversion internationale, c'est-à-dire des balles quand ils tuent des gens dans la rue, soit par attentat, par voiture explosive, soit tout simplement en les flinguant comme faisaient les gens d'Action Directe dans la rue, c'est quand même autre chose que des tartes à la crème. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas non plus prendre des airs de rombière, ou de bignol effarouché, hein, il l'a pas volé, et puis en plus, il semblerait que les jeunes qui ont fait ça aient mis de la crème, la vraie crème chantilly. Moi, j'aurais mis de la crème à raser si j'avais été à leur place. Comme ça, il en aurait gardé le goût pendant un moment. Enfin, voilà ce que je voulais dire de tout ça. Et les questions sont arrivées, ou les commentaires, je les lis dans l'ordre dans lequel ils m'ont été remis, et sans tri ni vérification préalable, donc je récuse à l'avance toute responsabilité s'il y a des choses dites et qui ne sont pas convenables. À propos du passage en correctionnel de l'écrivain Houellebecq pour injure à l'islam, une pétition d'intellectuels a été signée pour le rétablissement du délit de blasphème, confère le Figaro d'hier. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis tout à fait d'accord pour créer le délit de blasphème. C'est très très bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de limites aux libertés en France. C'est vrai, on peut dire n'importe quoi, vous comprenez, regardez, on peut raconter un forisson, par exemple, il publie ce qu'il veut, personne l'embête. Donc il faut arrêter ça, il faut créer un délit de blasphème. Non, sérieusement, il a pas... Houellebecq, qu'est-ce qu'il a dit ? D'abord, tout ça est une imposture formidable, encore une fois, parce qu'il a pas dit « l'islam est une religion de cons ». Il a dit « l'islam est la religion la plus con ». C'est-à-dire, toutes les religions sont connes, l'islam étant la plus de toutes. Autrement dit, personne ne se serait ému s'il avait dit « le catholicisme est une religion de con ». Ça, vous ouvrez le torchon Charlie Hebdo, vous le lisez à toutes les pages. Mais quand Bernard Anthony fait un procès par l'intermédiaire de la Griffe, enfin quand la Griffe, dont le président est Bernard Anthony, et dont le vice-président est Alain Rostand, et le co-vice-président votre serviteur, quand on fait un procès à ces gens-là, on nous renvoie dans nos buts en disant « mais écoutez, c'est la liberté de critique, on a le droit de dire ce qu'on veut, après tout, bon, et c'est de la dérision et tout. » Moi, je veux bien. Eh ben, on a appliqué la même loi, semble-t-il, à Houellebecq. Enfin, le procureur a dit « c'est la liberté de critique, et puis voilà, c'est tout. » Je sais que l'idée de créer un délit de blasphème a traîné ou a été émise. Moi, je ne peux pas être d'accord parce que je suis partisan d'une liberté de parole absolue dans tous les domaines. Il y a des radios qui sont faites. Enfin, il suffit d'écouter certaines radios pour comprendre que, notamment sur le plan des mœurs, on peut dire absolument n'importe quoi à la radio. On entend des monstruosités effrayantes. Mais on le sait. On sait, par exemple, que Skyrock, il passe ça. Personne n'est obligé d'écouter Skyrock. Ils n'ont qu'à tourner le bouton. Les gens qui sont pas contents. S'ils écoutent ces radios et qu'ils s'étonnent après d'entendre des cochonneries, quand on écoute radio fréquence gay, il faut pas s'étonner d'entendre une apologie permanente de l'homosexualité. Ça sert à rien de venir râler après. Quand on écoute radio Notre-Dame, il faut pas s'étonner d'entendre dire du bien de l'Église catholique. Hein, ça arrive, ça s'appelle la liberté d'expression. Voilà. Et si Houellebecq pense que la religion est les religions en général sont des conneries, ben il a parfaitement le droit de le dire. Il s'expliquera avec le patron une fois qu'il sera mort, c'est tout. C'est pas la peine de lui faire d'ennuis avant. De toute façon, il va mourir un jour. Que pensez-vous de l'affaire de l'incendie de Neuilly où des pompiers sont morts? Des médias ont précisé la nationalité de locataires. Pensez-vous qu'ils auraient dit la nationalité s'ils agit d'autre chose que de Polonais? Non, je pense pas, non. Évidemment, mais comme c'est des Polonais, ça tombe bien. Autrement dit, l'incendie, c'est un mystère. D'abord, c'est une tragédie effroyable parce que quand on a vu à la une du Parisien hier les photos des 5 jeunes, c'est vraiment la crème de l'élite de la jeunesse française là qui est atteinte. Ils étaient magnifiques, ces jeunes garçons. En plus, les pompiers, c'est vraiment un modèle de dévouement, de courage, de tout ce qu'on veut. Ils sont bons. Et ça déchirait le cœur de voir les photos de ces 5 jeunes morts comme ça. Maintenant, sur les circonstances, on sait rien. Apparemment, on nous a dit que c'était ce qu'on appelle maintenant un flash-over. Moi, j'appelais ça un retour de flamme quand j'étais français. Maintenant, on dit un flash-over. Alors il paraît que c'est des gaz qui s'accumulent dans une pièce fermée, et quand on fait rentrer des gaz brûlants, et quand on fait rentrer de l'oxygène, ça provoque une explosion. Et puis ce matin, on a appris que la fenêtre était ouverte. C'est le mystère de la chambre non close. Voilà. La commission de néologie et de détermination de la langue française a décidé depuis fort longtemps de préciser que le mot email, de franciser le mot email en mail, ou moi je dis courriel, je trouve ça plus joli, voilà. C'est Chirac qui, de toute façon, empêche Papon d'être libéré. Bah alors, ça veut dire que Chirac est plus au pouvoir parce que Papon est libre. Comment se fait-il que M. Becquet passe sous silence le procès Houellebecq qui s'est tenu? Bon, faux, vous avez tout faux. Sur France 2 à 13h, la journaliste a dit que Maurice Papon retournait dans la ville de Grémettes-Armainvilliers au lieu de Grèce-Armainvilliers. Parlez-nous de football. Avez-vous été voir le match PSG Strasbourg? Car à Strasbourg, il y a un joueur qui s'appelle Le Pen. Allez, non, ça ne doit pas être drôle pour tous les joueurs, pour lui, ça. Mais non, j'ai pas vu le match PSG Strasbourg. Je signale aux nouveaux auditeurs que, parce qu'apparemment cet auditeur n'est pas parfaitement au courant, que le football n'est pas dans mes passions immédiates. Voilà. Il n'y a pas que alors ça c'est pour vous, pardon, je le lirai tout à l'heure, à propos de l'affaire de l'Élysée, le service qui est intervenu, c'est l'inspection générale des sévices, nous dit un auditeur, bravo. Pouvez-vous organiser une émission consacrée à l'islamisme où l'on pourrait évoquer l'affaire Houellebecq et Doriana Falaci, tous les deux en procès en France pour les écrits islamophobes? Voilà une bonne idée. Voilà, tiens, une idée qui permettrait, pour une fois pour toutes, d'en finir avec cette émission et probablement même avec Radio Courtoisie. Non, il faut demander à Radio Beurre de faire une émission sur l'islam. Moi, je veux bien vous faire une émission sur l'Église catholique, si vous voulez. Voilà, courriel est préférable à email. Je peux vous assurer qu'il y a des femmes dans certains services des renseignements généraux. Bah oui, je le sais bien. On les appelle des rombières gracieuses, c'est ce que je disais. Et j'attends des excuses. Pour avoir assimilé la mégère de l'Élysée aux Bignoles, je suis moi-même le mari d'une Bignole. Si Serge de Wekesh ne fait pas des excuses immédiates, je lui envoie mes témoins. Oh là là, on va se battre à coups de balai alors. Bon alors, je présente mes excuses aux Bignoles. Que j'aime bien d'ailleurs. Moi j'ai une Bignole superbe. Superbe. C'est une toute petite dame très gentille qui est portugaise et je l'appelle la Lusitanenne. Parce qu'elle est vraiment très petite, mais elle travaille très bien. Voilà. Voulez-vous préciser vos sources quant à la présence du curé de Saint-Denis au Cambodge avec les Khmer Rouges? Ben écoutez, c'est très simple. Vous faites la chose suivante. Vous tapez sur... si vous avez Internet, autrement, alors évidemment, vous ne pouvez rien faire. Mais donc, je vous le dis, ça c'est la source, c'est moi, non? Mais si vous voulez en savoir plus... vous tapez sur Google, le moteur de recherche Google sur Internet, vous tapez berger, curé et Cambodge. Et il va sortir quatre trucs, quatre sites, enfin quatre indications de référence, et dont une est un article signé par le curé en question qui raconte comment, après avoir été au Cambodge, il est allé au Timor oriental pour rencontrer les gens du Fretilin, qui est un mouvement marxiste-léniniste de libération. Et maintenant, si vous voulez, si vous n'avez pas Internet, vous lisez le numéro du Libre Journal qui est sorti ce matin, que je vous enverrai moyennant un carnet de thèmes, car nos modestes moyens nous interdisent de faire des cadeaux. Et vous trouverez un article qui explique tout ça. C'est 4 Place France Liste, 75-010 Paris, pour commander le Libre Journal. En considération des exploits administratifs dont vous venez de parler, comment expliquez-vous qu'on puisse verser 1 euro de retraite tant qu'il reste 1 euro de dette publique? Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. La retraite n'est pas prélevée sur la dette publique, mais Gommier, vous savez ça mieux que moi, non?
Non, je suis en train de finir une enquête. Je suis en train de finir une enquête pour préparer un bouquin. Et là, je pourrais répondre, je pense, fin de l'année, début d'année prochaine.
Bon, ben voilà, vous en saurez plus l'année prochaine, si on est encore de ce monde. Et le curé de Port-Marly, il y a quelques années, rappelle une auditrice, oui, j'aurais dû y penser, ça, a été viré manu militari en pleine messe, et personne n'a protesté que c'était une atteinte intolérable, enfin, sauf chez nous. Mais enfin, dans l'opinion publique bien pensante, ce qui était quand même beaucoup plus grave, les photos l'ont montré, que de lui coller une tarte à la crème, personne n'a trouvé que c'était une atteinte scandaleuse à la sainteté des lieux et à la dignité de son habit sacerdotal. Voilà, merci à Beketch de parler ainsi de la tolérance et de l'intolérance de nos ennemis. Oui, voilà, Beketch, en défenseur de la tolérance, on aura vraiment tout vu. Alors, voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire sur l'actualité. Je crois que j'ai rien oublié de ce qui m'intéressait. Jean-François Gomer, donc vous avez créé un site internet qui est consacré à ce que j'appelle, moi, le scandale du chômage, mais qui va beaucoup plus loin.
Oui.
Et j'ai demandé d'ailleurs à notre ami, maintenant, je peux dire ça, Filterman, de venir aussi, parce que vos sites sont
liés.
Vous les faites pas. Vous n'avez pas d'autres points communs que le fait que vos sites sont liés et que le fait que vous êtes, passez-moi l'expression, deux emmerdeurs. C'est-à-dire que vous dites des choses qu'il ne faut pas dire.
Voilà. Bah, moi, mon surnom, c'est Fuka, déjà. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est mis... on avait tous constaté des problèmes chacun dans nos domaines. Donc, on s'est tous mis en réseau, on s'est tous regroupés. Ce qui fait qu'on a d'un côté les sites comme Scandale à l'emploi, Scandale français, Scandale aux armes micro-ondes, Scandale au sang contaminé, Scandale au pétrole. Et bon, tout ça, c'est des gens qui, de par leur profession, ont été confrontés à l'administration, à des arnaques, enfin, bon, à toutes sortes de problèmes qu'ils ont pu rencontrer à travers leur vie, quoi, ni plus ni moins.
Alors, vous avez donc créé le scandale à l'emploi.
Oui.
Alors, dites-nous lentement, s'il vous plaît, tout de suite, parce qu'il va y avoir des avalanches de demandes, on va le faire tout de suite, puis on le répétera, l'adresse de ce site.
Alors, c'est bon, http://. Mm-hmm. Perso, comme ça se prononce, .libertysurf.fr/crea-entrep. Mais en tapant scandale à l'emploi, c'est suffisamment trouvé.
J'allais dire, justement, il y a un truc beaucoup plus simple. Vous allez sur Google et vous tapez scandale à l'emploi et j'ai de la chance. Vous sélectionnez.
Même pas.
Ou même pas. Et puis vous tombez directement sur son site. Scandale à l'emploi. Et vous verrez, c'est un site qui est bien fait, qui est...
Pas très bien, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai pas le temps de le lire, j'ai modifié souvent.
Il est musclé, il est intéressant. Voilà. Quand je dis bien fait, c'est pas un truc avec des pop-up, avec des images qui bougent, c'est pas du tout un site rigolo, ni...
C'est triste même.
Ni ludique, c'est intéressant. Voilà. Alors, comment ça a commencé votre intérêt pour ces questions?
Ça a commencé tout simplement parce que j'ai quitté la région parisienne pour m'installer en Dordogne, où je croyais que les lois de la République étaient appliquées. Et bon, ben, j'ai démarré une affaire. Bon, je ne veux pas en parler parce que j'ai pas l'intention de me faire de la publicité. Et puis, bon, ben, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, des fausses aides à la création d'entreprise. Mais avant, c'est un dossier qui est très complexe, qui est voulu touffu par les autorités parce qu'elles-mêmes ne font rien. Et ça, je l'ai démontré et ça les gêne assez. J'ai donc constaté, là, en enquêtant, parce que je fais mon boulot.
C'est-à-dire que vous avez fait une expérience personnelle de création d'entreprise, et là vous avez été confronté à la
déjà
réalité.
À la période du chômage, déjà on s'aperçoit qu'on induit les gens en erreur uniquement pour leur faire dépenser le pécule qu'ils ont constitué, soit par des indemnités de licenciement, leurs propres économies. Bon, alors pour ça on a mis tout un artifice en place, ça nourrit les partis politiques, les syndicats, les associations, beaucoup d'associations, et là j'en connais un rayon. Dans ces associations-là on trouve des syndicalistes de tous bords, des parlementaires de tous bords ensemble dans la même association, j'y trouve même un ministre pour ce qui concerne mon département en Dordogne, un ex-ministre. Alors on peut s'inquiéter de savoir à quoi ça sert, parce que pour moi c'est uniquement des fonds publics qui sont versés à des individus. Quand on leur demande combien de personnes ont trouvé un emploi grâce à ces associations d'insertion, on me répond, le président du conseil général du département, zéro. Or dans mon département, entre le 1er janvier 90 et le 31 décembre 2000, il y a eu près de 24 milliards de centimes qui ont été versés à des associations d'insertion au profit des bénéficiaires du RMI ou de leurs ayants droit. Alors, j'ai continué l'enquête, et puis je me suis rendu compte, là, tout récemment, qu'il existait l'article L311-2 du Code du Travail, qui oblige, attendez, je vais le lire, obligeant les employeurs à notifier toute place vacante ou le nombre de rappels à l'ordre pour manquement à ce test, parce que l'employeur est tenu de signaler à l'ANPE les emplois vacants au sein de son entreprise, mais n'oblige pas d'y avoir recours, heureusement. Parce qu'il vaut mieux aller à l'Oftostory, hein. Bon, alors, cet article-là, il n'est pas appliqué du tout. J'ai donc adressé une demande.
La responsabilité en incombe aux chefs d'entreprise qui ne déclarent pas leur.
Non, c'est la législation française et notamment les inspecteurs du travail, la DDTEFP qui ne fait pas son travail. Et là, j'avais demandé au directeur national de la NPE de me donner la liste des besoins exprimés par les employeurs pour la mise en place de formation des demandeurs d'emploi. La liste des entreprises ayant respecté cet article, L311-2 du Code du travail, et la liste ou le nombre de rappels à l'ordre pour manquement à ce test, la liste des emplois offerts accompagnés du type de contrat lié. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la NPE a informé la commission, la CADA, que j'avais saisie, qu'il ne détient aucun des documents demandés. Alors, ce qui veut dire qu'on n'a aucun...
Je comprends pourquoi on vous a appelé FUCA. Hein.
Ah oui, mais je fais mon boulot, vous êtes bien journaliste. Bon, ben moi, je fais enquête, moi aussi, et puis je les fais là où ça pue. Et c'est généralement dans les endroits où il ne faut pas aller. Bon, alors moi, j'estime une chose, c'est qu'à partir du moment où ce texte n'est pas appliqué, on n'a aucune connaissance des besoins des employeurs. Donc, on ne peut mettre aucune formation en place. Donc, toutes les formations qui sont proposées aux chômeurs, bon, pendant le temps de la formation, ils sortent des statistiques. Mais seulement, il y a des sommes énormes d'argent public qui s'en vont verser à des organismes dont on serait bien de s'inquiéter un petit peu des destinataires et des destinations.
Alors, il y a un auditeur qui dit, à propos du faux chômage, je suis d'accord avec M. Gourmier, j'ai constaté depuis plusieurs années que moins il y a de travail en France et plus il y a de structures et d'organismes qui sont prétendument chargés de reclasser professionnellement les chômeurs.
Mais oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà, de toute façon, ce monsieur, il l'a confirmé aussi.
Et c'est un peu comme le ministère des anciens combattants. Moins il y a d'anciens combattants, plus il y a de fonctionnaires.
Mais voilà, c'est le système, parce qu'il faut nourrir beaucoup de monde. Et c'est pour ça, si vous voulez, moi, quand je me suis inquiété sur les difficultés que rencontraient les gens, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, par mes activités, qui ont tenté de se mettre à leur compte. Bon, c'est plus la vocation de créer son emploi. C'est une contrainte, parce qu'il n'y a plus de boulot, de toute façon, que ça soit la dame aux 35 heures, ou on a vu la dernière campagne politique qu'il y a eu avec les deux élections. Bon, pour trouver plus nul, on attendra la prochaine, parce qu'on a parlé de l'insécurité, c'était la grande découverte de l'année 2002. L'emploi, bon, on a survolé le problème, parce que de toute façon, comme on n'a jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit, la preuve, c'est qu'on n'a pas les outils. Il y a un texte qui existe, on ne l'utilise pas. Ben, on en déduit facilement que le chômage, eh ben, ils savent que c'est irrémédiable, que celui qui a perdu son emploi, c'est définitif. Et pour ce qui est de la création d'entreprise, alors là, il y a eu plus de 1200 aides à la création d'entreprise. C'est dans le rapport de Jean-Marie Bockel. Alors, j'estime qu'au bout de
1200
mesures d'aide.
Mesures d'aide, voilà.
Oui. Alors, quand on en arrive à ce stade-là avec le taux d'échec actuel, je crois qu'il vaut mieux faire autre chose que de prendre des mesures.
Le taux d'échec, il est quoi?
Enfin, tout le monde l'attribue comme il l'entend, hein, de toute façon, parce qu'il faut quand même protéger un petit peu ceux qui vivent des fonds publics à travers toutes ces associations et ces conseils, parce qu'il y a beaucoup plus de conseillers qui vous disent comment allez vous casser la gueule, de toute façon. Hein. Oh, il y a eu le dispositif Eden aussi, où on demandait au RMI de trouver une banque pour lui prêter de l'argent. Excusez-moi, les banques, moi, je les ai contactées. Hein. Ils se marraient tous. Bon, mais ça, il y avait des ministres qui avaient trouvé des banques, mais ils n'ont jamais donné lesquelles. Ouais, et quand on étudie ce dossier du chômage, bon, moi, je m'agace parce que c'est pénible, parce que j'ai des gens autour de moi et des copains de mon fils qui ont plus de 20 ans. On les mène en bateau. Il y a des associations qui font travailler des jeunes bénévolement, c'est-à-dire dans le bâtiment. On leur fait reconstruire des bâtisses. Enfin, je parle de ça dans ma région, là-bas, dans le sud-ouest. Et je dis au gamin, c'était pas plus tard que vendredi dernier, c'est un gamin qui fait du foot avec le mien. Et ben il me dit, ben non, je suis pas payé. Alors je lui dis, mais tu fais combien d'heures? Ben il me dit, je fais 6 heures par jour. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Ben il me dit, on monte des pierres, on monte des ponts, on monte des vieilles bâtisses que les communes vont présenter après comme des musées parce que on a de la main d'œuvre à bon marché. Quand je lui dis, mais Raymond, te donne rien? Il me dit, non, on m'a amené une demi-journée à la plage. Et ben ça se passe en France. Un pays riche.
Mais c'est interdit, ça.
Ben non, c'est autorisé parce que vous avez une association avec une loi 1901 qui permet de faire toutes les arnaques. Ce sont des voleurs. Parce que ils n'ont aucun...
Qui touchent de l'argent.
Mais quoi. Bien sûr. Mais seulement les salaires. Écoutez, j'ai trouvé, moi, j'ai des statuts, je les ai amenés là. Des gars, leur profession, c'est directeur d'association.
Oui. Oui, ça a de la valeur. Bach a fait beaucoup d'articles là-dessus. Il a mené une campagne, parce que la loi a changé sur les associations.
Oui.
1900, sur la rémunération des
Bah, tout le monde fait son association.
D'association. Et il avait dit, voilà ce qui va se passer. Il avait dénoncé ça. Ça a provoqué d'ailleurs une rupture au sein des organismes, des associations d'associations.
Oui, c'est ça. Mais
ça, c'est comme
ça.
Les poupées russes.
Oui.
Mais lui, il avait dit, c'est scandaleux. Il y a vraiment un scandale là dans rémunération des.
Mais moi, je me propose de monter une association pour étudier le comportement sexuel des libellules sous l'Antiquité, et je me fais fort de détourner les fonds.
Il faudra quand même trouver quelques adhérents.
Ah, mais c'est facile. Moi, j'ai des copains. Bon, on est
plus sexuel dans le titre. Vous êtes
voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là.
Ah,
mais bon, non, si vous voulez, le problème du chômage, c'est que bon, moi, j'avais fait une proposition. Pour les personnes qui étaient contraintes de se créer leur emploi. La proposition, elle était soutenue par tous les députés de la gauche de mon département, parce qu'ils ont co-signé une lettre à la dame aux 35 heures, qui n'a évidemment jamais répondu. Alors la proposition, elle consiste à indexer les charges sociales pour chaque début d'activité sur les recettes réelles. Bon, ça vaut ce que ça vaut.
Il faut, parce que alors moi, je ne sais pas si je suis le seul, mais là, dès qu'on commence à parler comme ça, je suis... largué.
Ah bon, non, mais...
Donc, vous dites qu'il faut indexer les charges sociales sur le
chiffre d'affaires réel.
Parce que pour l'instant, comment ça se passe?
Ah ben, disons, c'est forfaitaire. Alors, quand j'ai demandé comment calculer ces charges forfaitaires, eh ben, on ne sait pas. Il n'y a aucune donnée.
Donc, c'est arbitraire, c'est pas forfaitaire.
Mais tout est arbitraire, de toute façon.
Allez, reprenons au début. Je crée une entreprise.
Oui.
J'embauche.
Non, avant, vous commencez tout seul, parce qu'il ne faut pas embaucher.
D'accord, je commence tout seul, d'accord. Oui. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Dès le premier jour de votre activité, vous avez des charges sociales à payer, c'est-à-dire les charges courent avant votre premier, elles arrivent avant votre premier client. Bon, à partir de là, comme vous êtes au chômage, pour les trois quarts des gens, enfin même 90% des gens qui se mettent à leur compte, vous partez avec un handicap. Alors après, on a fait tout un tas de cinéma avec des associations qui viennent vous conseiller, mais ils ne vous donnent pas de clients, les associations. Parce que malgré le nombre d'intervenants au niveau de tous ces conseillers, qui eux-mêmes ne se mettent pas à leur compte, hein, parce qu'ils veulent pas se casser la gueule, bon, eh ben, on piège les gens. Et moi, j'ai dit, il faut aider les gens, et c'est pas de distribuer de l'argent qui s'en va forcément. De toute façon, chaque fois qu'on vous donne de l'argent, on vous oblige à passer par un organisme de formation, qui, lui, vous en pique déjà les trois quarts, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, et puis personne ne s'en sort. Moi, j'ai demandé à ce qu'on paye des charges sociales indexées sur le chiffre, sur les recettes réelles.
C'est-à-dire, dès que vous avez
pour chaque début d'activité, bon, on peut installer.
Quand vous commencez à gagner de l'argent.
Mais il ne vous reste rien, de toute façon, vous démarrez.
Non, mais la proposition que vous faites, c'est de dire, à partir du moment où mon premier client me paye.
Ben, je paye. Si, par exemple, sur un trimestre, vous gagnez... bon, moi, je parle en monnaie française, hein, parce que la monnaie de singe, j'en veux pas. Bon, si je gagne 10 000 francs sur un trimestre, par exemple, qu'on me dise, bon, les charges sociales, ça fait 50%, parce que pour rester dans la norme actuelle, eh ben, il va me rester quand même un peu d'argent. Que là, ben, quand vous arrivez dans la fourchette, il vous reste rien. Donc, vous bossez à l'œil. Donc, vous pouvez pas reprospecter d'autres affaires, parce que l'essentiel en France, c'est de payer les organismes sociaux. Parce que ça, c'est géré par le MEDEF, c'est géré par les syndicats, et on voit ce que ça donne. Il y a déjà un commencement avec le CREF. Bon, moi, je travaille dessus, je m'amuse. L'argent va pas où on vous dit, hein.
C'est-à-dire ?
Ben, je voudrais pas commencer à parler de mon bouquin parce que j'ai quelques problèmes justement en faisant mes enquêtes actuellement, mais je reviendrai pour vous faire ma pub.
Ah ouais, ouais, bah bien sûr, oui, j'attends que ça. Moi. J'aimerais bien que ça soit clair et qu'on dise les choses.
Ben oui, mais là, je veux pas m'avancer parce que l'éditeur m'a demandé de me taire parce que je cours pas après un éditeur en plus.
Ah bon.
Alors, oui, c'est une chance par rapport à certains.
L'éditeur est le chef d'entreprise,
il voit bien où il va. Donc. Voilà, donc c'est pour ça, bon, il n'a pas besoin d'aide à la création d'entreprise.
Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que, avant même d'avoir fait le premier centime, le chef, le créateur d'entreprise est obligé de payer, et qu'il paye pour alimenter des organismes sociaux, qui sont des organismes sociaux bidons.
Mais disons que c'est la gestion qui n'est pas contrôlée.
Oui.
C'est ça, de toute façon, moi je veux qu'on me prouve que quand on me dit que je dois payer une caisse de retraite, que ça va uniquement pour les caisses de retraite. Mmh. Et là j'attends.
Oui. Et alors si c'est pas le cas, ça va où ?
Ben disons que ça c'est le sujet de mon
bouquin. Vous pouvez me donner une petite idée quand même.
Ben disons qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de SCI.
Ah des SCI ?
Ouais, c'est pas mal.
Construire des immeubles.
Ben on fait tout avec une SCI.
Ah ouais.
Bon. Alors là, je cherche un texte pour montrer à quel point on trompe les gens au sujet des exonérations de charges. Je cherche mon document.
Oui, oui, pendant que vous fouillez vos papiers,
allez-y.
J'essaye d'imaginer comment fonctionne le système. Parce que, vous nous, en fait, c'est de la captation d'argent qui n'existe pas, qui va vers dans des directions qui n'existent pas non plus. Tout ça est complètement virtuel.
Non, mais de toute façon,
quand on vous fait payer des charges,
oui, c'est soi-disant pour votre retraite
que
vous n'avez
pas gagné.
Parce que des fois que vous soyez malade, vous savez que,
oui.
Mais il n'y a pas beaucoup de travailleurs indépendants qui sont indemnisés, hein. Il y a beaucoup plus d'arrêts de travail chez les fonctionnaires que chez les travailleurs indépendants.
Alors, oui, mais ça c'est parce que le métier est difficile, il y a de la poussière et tout. Non, ça je comprends bien. C'est mal éclairé, il y a des courants d'air dans les bureaux et tout ça. La fonction publique française, elle est, comment dit-on, désuète. Hein, les immeubles sont plein de courants d'air et tout. Donc on comprend très bien qu'il y a des malades. Ça, moi je comprends.
Bon, oui, je vais vous citer un exemple. Hein, ça vient de l'URSSAF. Hein, c'est une lettre qui m'a été adressée concernant les exonérations de charges sociales. Pour ce qui concerne les caisses de retraite, hein, cette dispense de cotisation n'exonère en rien votre caisse de retraite de vous réclamer des cotisations légales. Son fonctionnement autonome étant différent de la gestion du régime général de la sécurité sociale. Ce qui veut dire que puisqu'on veut simplifier les formules administratives, ben, il faut éviter de faire des conneries déjà. Parce qu'on commence par supprimer ces conneries, ça va soulager beaucoup de monde. Parce qu'on dit aux gens, vous êtes exonérés totalement de charges sociales.
Mais il faut
quand même faire l'enquête, savoir si la caisse, comment elle est gérée. Alors ça, bah, je suis désolé, on est en France. Bon, on voit pourquoi il y a un nombre, c'est aussi important que le chômage, mais avec la bénédiction des syndicats. Ouais. Parce qu'on lutte contre tout. Les abus de ceci, les abus de cela. Moi, en Dordogne, je connais des entreprises qui ont 70% de personnel en intérim depuis des années. C'est une infraction totale avec le Code du Travail. Tout le monde est au courant, personne ne peut rien faire, même les syndicats. Pourtant, les syndicats, ils savent brailler, hein.
Alors pourquoi les syndicats ne peuvent-ils rien faire ? Qu'est-ce qui les empêche de faire ?
Tout simplement parce que tout le monde est à la gamelle. Moi, je vois dans mon département le Conseil général de la Dordogne, parce que j'aime bien là-bas, hein, et bien ils ont distribué, bon, je ne me souviens plus de la ventilation, mais entre 230 et 240 000 francs aux syndicats pour la passation de 8 à 10 chiffres sur la numérotation téléphonique. Bon, c'est certainement pour la peine de faire deux numéros de plus. Alors, j'ai le texte officiel, j'ai tout. Bon, il faut qu'on arrête.
Vous nous dites que
oui.
Le fait qu'on soit passé de 8...
C'est sur mon site, d'ailleurs.
Les syndicats ont dit c'est trop fatigant.
Ah, ben certainement, oui, c'est une question de fatigue, quoi. C'est une question de fatigue. Bon, alors, quand on voit ça, que ces gens-là, ils sont gestionnaires de tous ces organismes, on se demande quand même à quoi ça sert. Parce que moi, l'URSSAF, j'ai enquêté auprès de l'URSSAF. Je suis tombé sur des gens impeccables qui m'ont dit, de toute façon, il existe des statistiques faites dans toutes les URSSAF sur la durée de vie d'une micro-entreprise. Bon, moi, dans mon département, ça n'excède pas 9 mois. Bon, le préfet est au courant parce que j'étais invité par un préfet qui n'est pas resté longtemps, malheureusement, il devait déranger. Bon, j'étais invité à participer à des missions d'urgence sociale et j'ai pu aborder, j'ai certainement le premier en France à aborder le problème de la création d'entreprise. Bon, il est intervenu auprès de la dame des 35 heures, il n'a jamais eu de réponse. J'ai des parlementaires, enfin des députés, des sénateurs qui ont tous co-signé une lettre. Ils l'ont adressée à la dame aux 35 heures, elle n'a jamais répondu. Parce qu'on ne répond pas. Là, j'ai adressé un courrier à Fillon. J'ai évidemment pas de réponse. J'ai écrit à M. Raffarin, bon, quand on constate que les jeunes en 6e, ils ne maîtrisent pas la lecture, je peux dire que dans son ministère, c'est pareil. Parce que moi, quand j'aborde le problème de la création d'entreprise, que je joins un courrier signé du préfet qui soutient ma proposition, je ne voudrais pas qu'on me dise qu'il faut que j'aille à la NPE, vous voyez. Bon, alors là, je dis, il ne maîtrise pas la lecture dans son service. Bon, là, par contre, moi, récemment, Jacques Chirac m'a répondu. Comme quoi, il prenait rendez-vous et il prenait contact avec le préfet. Bon. Ah, oui, j'arrive quand même à faire bouger la chose. Lui, c'est écrire. On maîtrise la lecture chez Chirac, quoi.
Revenons sur les syndicats. Vous nous dites d'une part que les syndicats ne gèrent rien en réalité, parce que...
Mais non, mais on achète la paix sociale.
Et d'autre part qu'ils touchent de l'argent pour des trucs comme l'augmentation du nombre des touches dans le téléphone. C'est probablement pour acheter du vernis à ongles au secrétaire, parce que ça use beaucoup plus vite que le vernis à ongles.
Certainement, oui, mais... Non, mais c'est pour dire que si tout le monde fait ça dans son département, on va peut-être pouvoir baisser les charges sociales réellement des entreprises. Même s'il ne s'appelait pas au MEDEF, parce que tout le monde touche sa commission. Tout le monde est une ristourne. Hein, oui. Il y a un journal, et je peux le citer, Capital, qui avait fait un article, l'argent secret des syndicats. Quand on voit en même temps que M. Blondel s'assoit pour négocier les 35 heures, excusez-moi, ce monsieur, avec la condamnation qu'il a eu au prud'homme pour non-respect sur la législation du travail, je le vois mal négocier les 35 heures quand il faisait faire 70 heures à son chauffeur sans le payer. Bon, enfin, ça, c'est du Blondel.
Son chauffeur, il était peut-être militant aussi, c'est du bénévolat militant.
Non, justement, il l'attaque au prud'homme, c'est qu'il n'était pas content non plus de...
Il était plus bénévole quand
il l'attaque. Non, il était plus bénévole, mais enfin, bon, l'ami du peuple qui a besoin d'un chauffeur, excusez-moi, c'est un peu dur.
Est-ce que vous avez essayé d'aller au-delà du constat, c'est-à-dire de réfléchir aux raisons pour lesquelles le système fonctionne ou dysfonctionne de cette façon?
Ben oui, mais c'est simple, parce qu'à force de faire les recoupements, on s'aperçoit obligatoirement que ça revient toujours dans le même circuit. Association d'insertion, systématiquement. Maintenant, on a trouvé un moyen pour avoir de la main-d'œuvre à bon marché. Apparemment, là, j'ai découvert des choses en étant sur Paris. C'est l'alternance, c'est pas mal. On a du personnel à bon marché. Enfin bon, j'ai beaucoup de choses sur mon site, mais c'est, je vous disais, bon, c'est très complexe d'aborder ce sujet-là parce que tout est fait pour que ça reste glauque, de façon à ce que ça nourrisse un nombre considérable de personnes sur la création d'entreprises et sur le chômage, parce qu'il n'y a aucune personne qui trouve du boulot. Il n'y a aucune maîtrise. L'article 311-2 du Code du travail qui permettrait justement de dire, bon, telle entreprise a besoin de ça. Alors, on crée plein d'artifices. Par exemple, les métiers de bouche ne trouvent pas de personnel. Les artisans ne trouvent pas de personnel. Ben moi, dans ma famille, il y a des artisans. Leurs enfants, ils n'ont pas voulu être artisans. Mmh. Alors qu'ils se taisent un peu, puis qu'ils regardent un peu les gens, qu'ils discutent avec les gens qui sont concernés, pas leur monde associatif, qui est une véritable secte. Et puis, qu'on aborde les sujets réellement. Bon, j'espère que, bon, grâce à votre intervention, enfin, et à la mienne, sur la, ils vont bouger un peu. Mais de toute façon, moi, j'ai tout paumé. J'ai rien à perdre. Hein, j'ai même découvert des fichiers sur lesquels figurent les noms des gens à ne pas embaucher en province. Et là, je crois quand même que...
Mais c'est des fichiers de quel ordre? Officiel?
Ben non, c'est officieux, parce que bon, déjà, il faut savoir, bon, moi, je traque toute la délinquance qui existe dans mon département, parce que personne ne veut rien faire, personne ne peut rien faire. C'est malheureux, tout le monde me dit, vous avez raison, mais il existe, et j'ai le papier, une liste. Hein, parce que ça concernait directement mon épouse, qui n'a jamais cherché de boulot en Dordogne parce que je suis trop proche de Brive. On lui a dit qu'elle ne savait pas s'y prendre pour chercher du boulot. Non, elle couche avec personne. Quand elle a eu du harcèlement sexuel, on a fait ce qu'il fallait. Bon, moi, j'ai donné ma parole de ne pas tabasser le mec, mais il n'y aurait pas de problème. Non, le problème du chômage, c'est que les gens, on les canalise. C'est la méthode des sectes. On met les gens en situation de dépendance. Si tu ouvres la tronche, ton RMI, tu sais... Tes indemnités ceci, tes indemnités cela.
Mais ce que je voudrais comprendre, enfin, moi, je crois tout ce que vous me dites.
On peut m'attaquer là-dessus, j'assume. Hein.
Non, c'est pas ça. Je suis certain que ce que vous dites est vrai. J'en ai déjà eu des témoignages par ailleurs, mais ce qui me paraît important, c'est d'aller au-delà du constat et d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que, écoutez, quand même. Un État qui est géré d'une façon même aberrante par des crétins, par des incompétents ou par des tordus. Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi on embauche des fonctionnaires ou des parafonctionnaires pour empêcher les entreprises d'embaucher directement du personnel. S'il s'agit de donner du travail aux gens, c'est toujours du travail aux gens, c'est toujours mieux que, des, que le privé le fasse, plutôt que l'État alourdisse encore sa, sa machine. Donc je ne vois pas très bien l'intérêt qu'ils peuvent avoir, sinon alors, et il faut en revenir à ce qui se dit depuis longtemps, c'est que la France est le dernier État soviétique du monde.
Mais c'est tout à fait ça.
Pas communiste, mais soviétique.
Non, mais c'est tout à fait ça, de toute façon. Écoutez, en France, il y a plus de 90, il y a entre 90 et 95% des brevets qui sont déposés chaque année en France qui ne sont pas exploités. Pourquoi ? Alors c'est pas leur mesure, mais leurs mesures, ils sont plaisir. Là ils vont encore, ils sont encore en train de faire une étude, comment on appelle, à la demande de Fillon sur la création d'entreprise. Mais qu'ils arrêtent. Hein, je suis passé au ministère hier. Bon, il faut que je rappelle demain parce que je vais pas monter tous les quatre matins pour qu'on se foute de ma gueule. Bon, moi ce que je, on m'a redonné une liste. Il y avait que des associations, mais des mecs qui sont sur le terrain, il y en a pas. Un chef d'entreprise qui a démarré une entreprise il y a 20 ans, lui, s'il me donne un conseil, je l'écoute. Quand c'est un gamin qui sort à 25 ans de l'école, ou de l'ENA, hein, bon, qui correspond pour moi à l'école nationale de l'arnaque, bon, eh bien, le type, il va rien m'apprendre. J'ai eu affaire à un au ministère du Travail, à l'époque de la dame des 35 heures. J'étais accompagné par l'assistante parlementaire d'un député PS. Il a presque fallu que je les sépare. Quand elle a dit que j'avais raison sur les textes, parce que j'ai un député PS que je tiens à remercier, il s'appelle Germinal Perrault.
Lui, il va être content du voyage, lui, alors.
Non, mais bon, de toute façon, on s'est accroché au début. Maintenant, à force de lui amener tous les jours une preuve comme quoi son pays s'était géré tel un bordel, et encore, bon, je lui dis, vous voyez, le texte, là, ça va pas, vous l'appliquez comment? Ben maintenant, il m'envoie des gens qui sont dans la merde. Bon, c'est quand même quelque chose, moi je suis...
Comment explique-t-on que les textes ne sont pas appliqués, enfin, bon, il y a des textes en France,
il y a des lois. Il n'y a pas de contre-pouvoir en France. On décide que vous serez chômeur ou on décide que vous allez bosser. On a fait un choix maintenant. C'est ça le problème. On a fait un tri. Hein, moi, je m'aperçois qu'il y a des milliers de, comment on appelle, de travailleurs clandestins qui trouvent du boulot. Déjà qui rentrent en France, ça veut dire qu'on fait déjà pas son boulot, qu'une quantité telle qu'on nous annonce.
Les policiers peuvent pas être aux frontières, ils sont à Saint-Denis pour arrêter les entarteurs.
Hein. Oui, et puis côté de l'Élysée. Oui. Non, mais disons que là, il y a un manquement quelque part, et ensuite de ça, il y a un autre manquement de la part des organismes tels l'URSSAF et la direction départementale du travail ou régionale, tout ce qu'on veut, parce que il y a tellement de bureaux qu'on sait plus où on s'y perd. Non, c'est un labyrinthe. Bon, pourquoi ils font pas leur boulot? Moi, j'estime qu'à la limite, on devrait dire à ces gens-là, on vous régularise. Mais vous dites qui vous embauchez. Une solution.
Oui, mais bon, vous savez bien que c'est pas possible parce que les gars qui les font travailler, c'est pas des petits artisans qui font travailler les clandestins.
Eh ben voilà, mais vous venez répondre à ma question. Vous me posez une question, je vous fais répondre.
Et c'est elle qui finance les milieux politiques, les partis.
Ben voilà.
Donc les gars n'ont pas du tout intérêt à ça, c'est évident. Mais pourquoi il y a des milliers, des centaines de milliers de clandestins, enfin dehors la loi en France, d'immigrés hors la loi en France? C'est tout simplement parce que l'État, enfin les hommes de l'État sont payés par les entrepreneurs, les grosses entreprises, pour assurer un volant de main d'œuvre. Bon, et ça se paye avec le chômage. Mais il y a 30 ans qu'on dit ça.
Ah oui, mais il faut qu'on arrête de le dire, il faut agir. Moi, quand je trouve des ministres qui sont administrateurs de l'association d'insertion, ça veut dire qu'avant d'être ministre, ils n'ont rien foutu. Mais et je voudrais savoir quel est le rôle d'un parlementaire dans une association d'insertion. Ça, il faut qu'on me l'explique. Ouais. Quand je leur demande, la réponse, elle est suivie d'un silence. On se demande pourquoi. Ouais. Bon, on l'interprète, le silence.
Ah, qui sont les ministres que vous connaissez?
Disons, il y a Xavier Darcos, qui est à l'association...
Je ne sais même pas qu'il était ministre, celui-là.
Si, enfin, il ne sait pas, il s'occupe... il apprend
ministre
à lire aux jeunes.
Il apprend à lire aux jeunes.
Voilà, non, mais c'est pour ça que j'ai des chances. Bon, vous avez Jean-Jacques de Piretti, bon, il est connu. Alors, sa profession... exerçant la profession de secrétaire national auprès du secrétaire général du RPR. Voilà, la qualification, c'est valable.
C'est un bon métier, ça.
Ouais, non, mais attendez. Exerçant la profession... Bon, il y a des chefs d'entreprise, mais ces chefs d'entreprise qui sont dedans, pourquoi ils n'en bougent pas? Parce que l'insertion, c'est le boulot. C'est pas laisser un mec dans la merde.
Vous voulez devenir secrétaire du secrétaire général auprès du secrétaire national?
Non, mais moi, ça me branche pas, parce que j'ai mes inventions à terminer. J'ai créé des produits. J'en ai un qui a été testé favorablement et officiellement. J'aimerais bien pouvoir travailler, moi, plutôt que de m'amuser avec des pitres, parce que j'ai autre chose à faire. Ouais. Ou alors, je fais de la politique, on m'apprend à mentir et à voler. Et puis, dans ce cas-là, ma situation, elle est toute retrouvée. Moi, à mon âge, je trouverai plus de boulot. Donc.
Les places sont prises, là. C'est pas la peine d'apprendre. Là, c'est un métier où il n'y a plus de place.
Il n'y a plus de place, c'est voleur.
menteur.
Ah, voleur, non, mais disons.
C'est très occupé.
C'est très possible.
Il y en a même qui se battent pour entrer. Alors, c'est pour vous dire.
Ah bon? Non, mais ça, je ne sais pas.
Regardez les élections, vous allez comprendre tout de suite.
Oui, non, mais les élections, moi, vous savez, j'ai mes propres bulletins, donc je suis pas gêné.
Alors, je vais lire les messages, comme d'habitude, puisque Victoria me fait faux bond. Qu'est-ce que vous voulez? Elle prétend se reposer, je sais pas, c'est quand même extraordinaire. Elle a été opérée il y a à peine une semaine, elle est même pas revenue travailler. Mais oui, docteur, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, mais c'est quelle opération? C'était pas
trop. Ça, c'est intime. Ça, c'est...
Ah bon, très bien. Il y a des opérations assez importantes quand même. Mais je ne sais pas, évidemment.
Les diverticules. Mais les diverticules, elle pourrait reprendre le boulot quand même. Enfin, c'est pas sérieux tout ça. Elle n'est pas fonctionnaire, donc elle a eu l'excuse. Je sens que les fonctionnaires qui écoutent l'émission, ils vont être contents de ça. Donc, je lis les messages. Il y a quelques années, il y avait un patron d'émission Radio Courtoisie, Maître Boyer, oui, qui avait dénoncé le rôle de l'URSSAF. Il avait dit que c'était une organisation illégale. Pouvez-vous en parler? C'est pas une organisation illégale, c'est une association de droit privé.
Ben moi, je me suis pas trop penché sur la question parce que c'est pas le but. Moi, j'ai eu des bonnes relations avec eux parce qu'ils m'ont donné des infos au sujet de la durée de vie des micro-entreprises. Bon, j'ai aussi réussi à faire parler quelqu'un qui faisait partie d'une commission de recours amiable d'un de ces innombrables pièges d'Afrique, là, qui m'a dit de toute façon, il existe des rapports, mais les rapports, ben, sont tellement gênants pour les politiques et les syndicats qu'ils n'aboutiront jamais.
Mais ils sont publiés, ils existent.
Ben, non, parce qu'on les trouve pas. Type dit, je vous donne pas mon nom parce que je veux pas avoir de problème. Mais quand on vous dit, on fait des rapports qui sont secrets, il faut qu'on arrête. Écoutez, on fait.
Il y a des fonctionnaires qui. Moi, écoutez, il y a un truc. Je fais une parenthèse. Quand vous arrête une seconde. Mais en France, vous avez toujours des gens qui vous parlent et ils vous disent toujours, mais je vous donne pas mon nom parce que vous comprenez. Bon. Et c'est le pays où en permanence vous pouvez rencontrer n'importe qui. Vous lui dites. Mais si en 40 vous aviez été en France, qu'est-ce que vous auriez fait? Oh, moi j'aurais été dans la résistance. Alors les mecs, ils veulent nous faire croire qu'aujourd'hui en 2002, on risque rien. Ils veulent pas donner leur nom dans une affaire où il n'y a aucun danger, mais qu'en 1940, ils auraient été dans la résistance où ils risquaient d'être fusillés du matin au soir. Mais on vit dans cette imposture-là en permanence.
Mais écoutez, moi je vais vous dire.
Donc ils donnent pas leur nom et ils vous disent quoi alors que... Ils sont entourés d'arnaqueurs et qu'eux sont des gens honnêtes.
Écoutez, moi, j'estime qu'il y a quand même une non-assistance à personne en danger quand on voit que l'INSEE a fait un rapport sur la surmortalité des chômeurs et qu'on voit le résultat qu'on voit aujourd'hui. Parce que ça veut dire, encore une fois, ça confirme ce que je dis, ils ne servent à rien. C'est clair, net, sans bavure.
Qui sert à rien?
Eh ben, tous ces pouvoirs, tous ces organismes, l'État, tout ça, ça sert à rien.
Ah, ben là, je suis d'accord. Ça, c'est
si il y a une surmortalité des chômeurs, ça veut dire que finalement, on leur donne rien. Leur situation, elle évolue pas.
Hein? C'est surtout la preuve que rien n'a changé par rapport au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, les chômeurs mouraient aussi, parce qu'ils mouraient de faim, tout simplement.
Oui, non, mais de toute
alors
façon...
maintenant, on leur donne de l'argent, on leur donne...
Et puis il y a les Restos du Cœur.
Les Restos du Cœur, tout ça. Mais en réalité, on a créé... C'est pas une mortalité par famille, c'est une mortalité, c'est une espèce de suicide psychologique. Je suis sûr qu'ils meurent d'angoisse, de tristesse, de...
Et alors, bon, ça tombe dans l'alcoolisme. Moi, sur mon site, j'ai mis en résumé sur un rapport sur l'état de santé des chômeurs longue durée. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de mails que j'ai reçus pour me demander où je me suis procuré. Bon, je me suis procuré le plus légalement du monde, hein. Je l'ai demandé là où il fallait, je l'ai reçu, avec une aide d'accompagnement, point. C'est-à-dire qu'on prend des mesures sans rien y connaître. Moi, je vois le cercle. L'INSEE, le plan, réaliser une étude qui dresse le portrait des travailleurs pauvres, parce qu'on peut bosser et rester dans la merde en France. Hein. C'est l'avantage des pays riches, hein, quand même. Hein. Bon, c'est-à-dire des Français qui, tout en travaillant, ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Vous voyez l'intérêt de se lever le matin, hein, donc ne faites rien. Hein. Hein. Les deux tiers d'entre eux ont une activité continue pendant l'année, souvent des travailleurs indépendants, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'aides. C'est bien, les aides à création d'entreprise, faites-en 10 000 encore, on gagne. Hein. Dans les entretiens accordés aux Échos, le président du Cercle exprime ses doutes sur la réforme de la CSG tout en s'inquiétant de l'évolution du SMIC dans le cadre des 35 heures. Bon, mais ça, si le pouvoir ne sait pas lire, je peux leur expliquer. Ouais. Parce que ce sont leurs documents. Ils ont les documents qui contrarient et qui leur démontrent qu'ils ne servent à rien. Moi, vous savez, je suis pour qu'on autorise tous les chômeurs à chasser tous les jours sans permis et de pêcher tous les jours sans permis.
Oh, pas à Paris quand même. Hein,
n'importe où, il y a la Seine. Il y a la Seine. Bon,
la pêche, oui, mais la chasse, ça transporte.
Oui, mais enfin.
Les rues devant deux.
Non, mais disons que. C'est une loi naturelle, la chasse et la pêche.
Je vais vous proposer une explication au fait qu'on ne fait rien pour lutter contre le chômage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que le chômage, quand il atteint le degré qu'il a atteint en France, et surtout ce chômage bétonné, c'est-à-dire le chômage dans lequel les gens n'ont aucune chance d'en sortir, eh bien, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne d'une part des chômeurs qui sont terrorisés, paralysés. Vous dites, ils meurent de tristesse, d'angoisse, de désœuvrement, d'alcoolisme, de télévision sofa ou fauteuil toutes les gens parce qu'ils restent. J'imagine très bien ce que c'est. Et d'autre part, on a des gens qui travaillent dans la terreur de perdre leur emploi.
Oui.
Donc, on a ce qu'on appelle la paix sociale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en France, il n'y a plus aucune grève importante en dehors des grèves de fonctionnaires.
Et c'est leur métier.
Il n'y a plus aucune manifestation importante en dehors des manifestations organisées par des groupuscules d'extrême gauche ou des officines d'agitation, comme le droit au logement, comme l'aide aux travailleurs clandestins, etc. En dehors de ça, il n'y a plus une seule entreprise qui fait dans laquelle il y a des grèves. Je dis en dehors de la fonction publique. Et quand, l'autre jour, il y a eu une grève des pilotes d'Air France, la seule chose qui a été dite à la radio, qui a été serinée toute la journée sur la grève des pilotes d'Air France, c'est que les pilotes, à cause de leur grève, ont perdu 7000 francs ou 70000 francs, je ne sais plus combien, chacun, puisque ça a fait baisser le prix des actions qui leur sont données, les actions Air France, et donc ils ont fait une grève pour gagner un peu plus, mais pendant qu'ils ont fait la grève, leurs actions ont baissé et tout. On sentait qu'il y avait une espèce de jubilation, parce que les pilotes s'est présenté maintenant dans un pays où les ministres viennent de se compter de 70%, où les députés gagnent 10 briques à ne rien foutre de la journée, des pilotes qui mènent une vie d'enfer, parce qu'ils gagnent 80 ou 100 000 francs par mois, ils sont, pour grand maximum, parce qu'il y a très peu de pilotes qui gagnent ça, ils sont considérés comme des super nantis. C'est vraiment, on est dans un pays où, maintenant, le système est érigé en un système de jalousie généralisée, de dénonciation généralisée, de haine généralisée. Il faut détester son voisin, et c'est joyeusement entretenu par les médias. Alors, dans cette ambiance de haine généralisée, le chômage joue un rôle de modérateur, et pas de modérateur, mais d'extincteur des crises sociales. Plus personne ne bougeait un poil, parce que le chômeur se dit, je risque de perdre mes indemnités. Comme vous le disiez, celui qui n'a même plus d'indemnité dit, oh là là, tant que je peux garder le RMI et la couverture maladie universelle, tout va bien, ne bougeons pas. Le petit chef d'entreprise se dit, pourvu que l'URSSAF ne me tombe pas sur le poil, pourvu que le fisc ne me tombe pas sur le dos. Et ceux qui ont du boulot disent, je bouge pas parce que si mon patron me vire, ou si par une grève je fais perdre de l'argent à l'entreprise et qu'elle est obligée de licencier, je vais me retrouver chômeur jusqu'à la fin de mes jours. En plus, on n'embauche plus personne à partir de 40 ans maintenant, pratiquement.
Je sais.
Donc on est dans une situation totalement bloquée. Alors, ce tableau étant tracé, et vous avez, vous qui êtes complètement en dehors du système mais qui le connaissez de l'extérieur, vous avez une idée pour en sortir ?
À l'heure actuelle, avec les outils qu'ils ont, il faut les raser. C'est tous les documents qu'ils ont faits, on les brûle. Déjà, qu'on ne garde pas des idées préconçues pour faire plaisir à tel ou tel syndicat, et puis qu'on reparte à zéro. Écoutez, il y a 90 à 95% des brevets qui sont déposés chaque année en France qui ne sont pas exploités. C'est là qu'est l'emploi. C'est pas dans les pitreries, dans les escroqueries qui sont générées par toutes ces associations, ces formations et j'en passe. C'est pas là qu'on va trouver de l'emploi.
Mais il y a, par exemple, à propos des brevets, moi j'entends toujours des émissions où c'est l'Anvar, ça s'appelle, c'est ça ?
Non, l'INPI. Pas l'Anvar.
Non, l'Anvar, ce qui est censé...
C'est-à-dire qu'il y a l'INPI pour déposer les brevets et l'Anvar, normalement, qui est censé aider les inventeurs.
Voilà. Est-ce qu'il existe une statistique des résultats de l'Anvar, c'est-à-dire combien il y a
L'Anvar, je crois qu'ils l'ont modifié, mais de toute façon, nous, on avait fait une demande d'Anvar à l'époque avec mes associés pour une invention. Bon, ça sert à rien parce que de toute façon, on vous aide à mettre le produit au point, mais après, vous savez, l'aide. Je vais voir mon banquier, j'hypothèque ma baraque, je m'emmerde pas à faire des papiers. Et ça me coûte moins cher que de passer par tout le circuit. Parce que quand vous analysez, moi je suis passé par les banques pour analyser tous ces dossiers. Le banquier me disait, moi de toute façon, votre proposition là, à indexer les charges sociales sur les recettes, il me dit de toute façon, quelqu'un qui a besoin que d'un ordinateur, un fax et puis un téléphone portable, il n'a pas besoin d'avoir recours à tous ces arguments. Mais seulement, il est obligé de le faire pour espérer bénéficier de l'exonération de charges sociales. Donc on vous met dans un piège. L'aide, pendant un temps, l'ACRE, c'était une aide à la création de l'entreprise qui était imposable parce qu'elle n'était pas versée à la personne morale, elle était versée à la personne. Alors moi, des aides comme ça, ils se les gardent.
C'est l'État qui vous donne de l'argent, mais vous.
Non, parce que ça, c'était.
Ah, mais c'est on, des associations.
Non, parce que, attendez, le système, le système, il était bien à l'époque, il était judicieux. Plus votre durée d'indemnisation au chômage était courte, plus vous aviez droit à une aide importante à l'ACRE et de l'ACRE. Bon, donc on avait intérêt, dès que vous alliez vous inscrire au cercle du club, là, à l'NPE, on vous disait, mais de toute façon, vous n'envisagez pas une création d'entreprise. Alors vite, il fallait faire ça dans les 3 ou 4 mois pour retoucher, je ne sais plus combien, 33 ou 36 000 francs, parce qu'ils ont fait le yo-yo avec ça. Et puis finalement, vous démarriez un petit peu n'importe comment. Quand les gens se cassaient la gueule, parce que moi, tous mes copains, 100% en Dordogne, un gars qui avait créé 14 emplois, il est en train de divorcer, bon, parce qu'il est dans la merde, mais merci les aides, hein, il devait avoir des exonérations de charges patronales sur les salaires, il les a jamais eues parce que ça a été capté par d'autres entreprises. Bon, je vais donner les noms sur un site internet que je suis en train de finir, parce que c'est quand même lamentable de voir que en France, on profite de tout pour enfoncer les gens. Parce que moi, les gens qui veulent travailler, des gens qui sont prêts à innover, j'en connais beaucoup. Mais il n'y a aucun brevet déposé par un ministre, hein. Ni un parlementaire, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
De toute façon, quand vous déposez des brevets d'invention en France, parce que moi aussi, bon, j'ai fait un ou deux dépôts de brevets, mais j'ai très vite arrêté parce que je me suis rendu compte que c'est de l'arnaque. J'ai été contacté par d'autres personnes, et puis il faut se rappeler également l'affaire de Martin Kinf, quand même, qui est parti à Silicon Valley. C'était l'affaire du Catalavox.
Oui.
Hein, qu'on devait aider.
On avait vu, c'était un système informatique qui utilisait la voix.
Voilà, de reconnaissance vocale qui intéressait l'aviation, qui intéressait la chirurgie, qui intéressait beaucoup de monde. Ça a été un véritable scandale parce que même la presse, les médias, et ça s'est fait sous la gauche, il faut quand même le rappeler. Bon, ça s'est fait sous la gauche, cette histoire-là. Elle a été démolie complètement en France. On l'a accusé de travailler avec les Russes, c'est tout juste si c'était pas avec le KGB. Et il a fallu qu'ils foutent le camp à Silicon Valley. Alors, mais il n'y a rien de changé, parce qu'il faut quand même savoir, alors ça me fout en rogne, parce que il y a des affaires actuellement où j'ai été contacté effectivement par des inventeurs, et qu'est-ce qu'ils me disent de ces gens-là? C'est qu'on essaye de contourner les dépôts de brevets d'invention qu'ils ont déposés, on essaye de les piller, et c'est des trusts qui sont derrière, et il y a des hommes politiques qui sont impliqués. Bon, pour une histoire, il y a une histoire également, ça concernait une invention pour l'extinction des puits de pétrole, ça fait je ne sais pas combien de milliards de dollars. Les personnes qui sont dans cette affaire-là ne s'en sortent pas, et puis ils ont même été virés de leur maison dernièrement. Donc ça, je pourrais vous donner le nom de la personne, vous pourrez l'inviter, parce que là encore, il y a des politiques impliquées, il y a des États impliqués.
Voilà, alors on ne peut pas développer tout ce soir, on a fait une petite insiste sur les brevets, ça sera un autre sujet. Ceux qui s'intéressent à ces questions peuvent se référer au site de M. Gourmet qui s'appelle, alors je le rappelle, pour l'avoir, c'est beaucoup plus simple, vous cherchez sur le moteur de recherche Google, vous tapez scandale à l'emploi et vous allez le voir sortir tout de suite, et il est très intéressant, et puis il est en lien avec... Le site de Mark Filterman, qui est passionnant aussi. Je signale que j'ai eu beaucoup de demandes pour la fameuse photographie du globe, enfin de la Terre, avec les cercles, les fameux cercles. Alors, mystérieux. Là. Donc il y a une photo sur votre site.
Les photos sont sur mon site et la retranscription de l'émission donc de mercredi 11 septembre sur la guerre climatique, la retranscription complète est sur mon site également. Hein.
Alors ça, à propos, je voudrais signaler quelque chose. C'est que vous, Mark Filterman, avec une honnêteté scrupuleuse, vous reproduisez les entretiens à radio en mot à mot. Et j'étais épouvanté de lire, parce que c'est de la bouillie pour les chats. Hein. La façon dont on parle à la radio, avec les répétitions, les phrases coupées, quand on parle, on comprend, mais quand on lit, on est effrayé par la façon dont on s'exprime, parce que on a l'impression que c'est totalement incompréhensible. Dieu merci, quand on parle, c'est plus compréhensible que quand on lit le mot à mot. Mais si vous voulez vous amuser, alors vous allez sur le site de Mark Filterman et vous allez voir le mot à mot de ses émissions, que ce soit à la télé ou à la radio ou à Radio Courtoisie, et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est très très étrange. Je lis maintenant quelques messages parce qu'ils sont arrivés. Jean-Marie Molitor, directeur de Minute, m'a dit « Je suis choqué de mon étonnement suite à l'entartage du curé de la basilique de Saint-Denis. Le problème n'est pas le problème de l'individu, aussi pourri soit-il. Un prêtre est un prêtre pour l'éternité, quoi qu'il fasse, et il n'a pas de pouvoir de se désordonner. et de déordonner les habits sacerdotaux sont sacrés. La profanation, comme tu l'as justement dit, de la basilique avec l'accord direct ou indirect du curé berger n'est pas une justification pour désacraliser à son tour. Dans ce cas, on ne vaut pas mieux que lui. L'entartage de cet individu aurait pu se produire lorsqu'il se trouvait hors des habits sacerdotaux. Cela ne doit pas être bien difficile de le trouver habillé en laïc. Oui, effectivement, il se vantait dans Urban de ne jamais porter ni croix, ni costume de clergyman, ni col romain, ni rien du tout. Aucun signe extérieur de sa fonction. Voilà, ce souvenir de notre accœurement, dit Jean-Marie Molitor, lorsque les forces dites de l'ordre avaient viré Malu Militari, le père Bruno à Port-Marly. C'est au sujet de M. Papon que je m'interroge. J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. Il faut que le fait que M. Papon soit libéré ne me choque pas. En revanche, ce qui me semble étrange, c'est le fait que tous les intervenants sur toutes les radios interdisent à M. Papon de s'exprimer dans les radios et télévisions. Pourquoi aurait-il des vérités à dire? Vous m'éclairez à ce sujet. Non, je ne peux pas vous éclairer. Je suppose qu'il a plein de vérités à dire. Et je voudrais rappeler quand même qu'il a dit ses vérités dans un livre qui a été publié par une toute petite maison d'édition, qui était une maison d'édition technique, strictement technique. Et quand moi, ça m'a surpris à l'époque. Ce bouquin, personne n'en a parlé. Il a été très très peu distribué, etc. Et je me suis interrogé sur les raisons qui faisaient que c'était une maison technique, de littérature technique, qui publiait ça. Et j'ai fait une enquête et j'ai interrogé le directeur de cette maison de littérature technique, enfin d'édition technique, qui m'a dit qu'il était citoyen israélien, qu'il était officier de l'armée israélienne et qu'il était un ancien collaborateur du Mossad. J'ai trouvé ça quand même assez curieux. Je vois pas pourquoi les mémoires en défense de M. Papon ont été publiées dans cette maison d'édition. Je sais pas si ça éclaire le sujet, mais enfin, ça m'avait intrigué. Alors, il faut citer là, alors il y a un mot que je ne peux pas lire, du Crédit Lyonnais qui a proposé à des salariés anciens à fort taux d'indemnisation licenciés la reprise d'entreprise dont il avait classé les crédits en créances douteuses, lui permettant d'apurer les créances douteuses avec les indemnités de licenciement C'est formidable, je trouve, cette histoire. Vous connaissiez ça?
Non, mais c'est... Bon, il y a eu des affaires aussi avec une célèbre banque, là, qui prêtait à ceux qui se mettaient à leur compte.
Enfin, quelqu'un qui dit la vérité sur le chômage et les vampires qui en profitent. J'ai pour ma part pratiqué l'APC, NPE et autres stages divers et variés. Finalement, un retour en université à 49 ans m'a ouvert d'autres portes. Oui, mais il faut pouvoir. Tout ça est passionnant. Merci, nous dit un auditeur qui dit qu'il a entendu aux informations qu'un missile balistique nord-coréen a survolé le Japon et s'est abîmé dans l'océan Indien. Et dont il a fait un drôle de chemin, celui-là. Enfin bref. Donc, visite en Corée du Premier ministre japonais, etc. On rigole, dit-il, mais bon, oui, c'est vrai qu'on va l'avoir, cette guerre. Ils la veulent, on l'aura. Votre intervenant nous parle de choses inconnues pour la plupart des gens. Parlez-nous de l'arnaque officielle obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment qui coûte environ 27% de plus qu'un salaire normal, compris les charges sociales. Il est vrai que cette caisse possède des beaux locaux riches d'antiques. Bah oui, oui, bien sûr.
Bon, ben concernant la caisse des congés payés du bâtiment, bon, ben là, comme j'ai dit, je prépare un bouquin. Je n'ai pas l'intention d'en parler maintenant pour des raisons évidentes de sortie du bouquin, d'une part, et aussi parce que je ne veux pas non plus être un peu trop dérangé pour ce qu'il me reste à faire. Mais vous aurez la solution dans mon bouquin.
Bon, ben, perdez pas trop de temps. Je suis Carnot, j'espère, quand même.
Pour l'instant, je ne vais rien dire.
Je vais dire à M. Carnot de vous publier. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Il regarde d'un air affolé la pendule. Mais j'ai pas encore fini, enfin, mais c'est incroyable, ça. C'est un véritable négrier, ça, mec. Je voudrais nuancer vos propos sur la paix sociale ou l'absence de grève dans les entreprises. La plupart des patrons ne trouvent pas de personnel, et ce, agents de maîtrise compris, ce qui rend impossible le licenciement. Deuxièmement, les prud'hommes ne faisaient déjà aucun cadeau aux chefs d'entreprise. Avec la loi de modernisation sociale, le patron est l'otage de son personnel, c'est pas faux. Il n'est pas vrai de dire que les salariés vivent dans la terreur d'être licenciés. Il y a même un commerce des licenciements, puisque la prise en charge par la CEDIC est liée à un licenciement et que cette prise en charge déclenche les assurances qui libèrent le salarié de ses échéances. Mensualités diverses de crédit et même crédit immobilier.
Alors là, je peux témoigner que... c'est limité dans le temps, d'abord.
C'est limité dans le temps.
Bon. Et ensuite de ça, les entreprises qui prétendent ne pas trouver de personnel, je voudrais savoir où elles s'adressent.
Parce que c'est facile de dire, je trouve pas de personnel, mais si on demande cherche du personnel sur le zinc du café du commerce, on a peu de chances d'en trouver.
Plus je vous écoute, plus je me félicite de m'être évadé de France, nous dit un ami du Québec. Ici, j'ai créé une société de distribution de lithographie française. Je n'ai payé les impôts qu'un an après, lorsque mon comptable a fait mon bilan. Voilà pourquoi l'économie fonctionne en Amérique du Nord. Très bonne émission. Abonnez-vous au Libre Journal de la France Courtoise. Oui, c'est un abonné. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. J'ai lu. Voilà. Vous êtes d'accord, docteur?
Ah, c'est bien.
Bon, c'est bien.
Belle publicité.
Il est d'accord, c'est bien. Émission intéressante, mais la langue n'est pas académique. Ah oui. Ah, ça.
Ah, ben voilà. Ça, il faut pas.
Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que c'est pas académique, mais je pense qu'on a une excuse. Enfin, que M. Gommier a une excuse. C'est qu'il y a des moments où on a tendance à trouver que la coupe est un peu pleine et ça s'exprime par des mots qui sont des mots un peu gras, un peu violents, c'est vrai. Enfin,
bon, j'ai quand même l'habitude de rencontrer des gens.
Moi, je préfère les gens qui disent la vérité sur un ton comme ça plutôt que des gens qui disent des mensonges avec le petit doigt levé. Voilà, c'est tout.
Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire de toute façon, parce que j'en ai rencontré. Et puis, quand on s'adresse poliment aux gens, on n'a pas de réponse.
Amish m'embête beaucoup ce soir. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il m'énerve énormément, Amish. Il veut absolument, je sais pas ce qu'il veut, il me fait des gestes, il montre le docteur d'or du doigt. Ah oui, mais je vais lui donner la parole au docteur, c'est pas la peine de s'énerver. Ah bon. Il y a une association ad hoc qui veut dire agir et défendre les hommes qui osent contester. Le président en est un ingénieur à l'EDF. Cette association a pour ambition de développer la liberté de parole et le débat collectif, de protéger les personnes qui donnent l'alerte et de rééquilibrer les rapports entre dominants et dominés. Alors, il donne le numéro de téléphone. Je vais le donner, on verra bien. 06 86 97 44 95. 06 86 97 44 95. Il y a eu une première réunion vendredi 17h à Paris. Voilà, ça s'appelle ad hoc. Pensez-vous réellement que M. Raffarin arrivera à libérer l'initiative alors que les 35 heures sont toujours en vigueur? Non. Combien y a-t-il de fonctionnaires à la NPE, vous le savez?
Bon, je le savais, mais bon, je me gargarise pas avec ce genre de chiffres parce que c'est pas mon sujet.
Est-il possible de dissoudre les ACEDIC et d'autres organismes publics à long terme?
Oh, mais ça, de toute façon, ça sert à rien. Donc, déjà, les gens qui font réactualiser leur situation par Minitel, faut quand même savoir qui paye. Et que c'est partagé entre France Télécom, qui est en déficit, parce qu'il n'y a pas assez de chômeurs, sans doute, et puis les ACEDIC.
Oui, c'est un service kiosque payant.
Pourriez-vous préciser que c'est quand même formidable?
En faire genre de tout.
C'est incroyable. Ils font payer. Bon, bref. Pourriez-vous préciser que l'URSSAF veut dire URSSAF? Ben oui, bien sûr. C'est Union des Républiques Socialistes Soviétiques d'Action Française, peut-être, non? Hein, ami, c'est ça?
J'ai pas entendu.
Bon, ben, c'est ça. Voilà. Vous feriez mieux de nous parler des millions de sans-papiers ou d'étrangers avec une carte française qui n'ont rien à faire chez nous et qui touchent le chômage. J'habite à côté de l'église Saint-Bernard toute la journée. Ils ont le col posé sur un capot de voiture. C'est peut-être Paul Col qui a écrit.
Paul Col, oui, c'est mal écrit.
Donc posé sur un capot de voiture et n'en bouge pas. Voilà, ben oui, ben ça y est, on en a parlé. Avez-vous un contact avec la Bourse du Travail?
Moi, je refuse.
Bon. Beketch a hésité sur le mot désuète à propos de la fonction publique. Peut-on préciser qu'elle est sinistrée? Quand recevrez-vous, monsieur ou madame Maigret? Vous avez reçu monsieur Le Pen? Oui, bah, j'ai reçu Maigret, bon, oui, c'est vrai, ben voilà. Comment l'invité envisage-t-il les moyens de sauver les entreprises harcelées par les charges? Alors, on a posé la question, rapidement.
Ben, je pense que j'ai répondu, de toute façon. Il y a trop de charges, et puis c'est tout. Parce qu'il faut que l'argent aille vraiment où on a dit.
Avez-vous bien travaillé en classe pour passer le bac? Êtes-vous un bon élève? Si c'est à moi que la question se pose, la réponse est non, je n'ai pas le bac. Vous l'avez, vous?
Non.
Bon, bienvenue au club. Il faudrait une association pour...
Pas de quoi se vanter.
Hein?
Il n'y a pas de quoi se vanter.
Bon, je vois, parce que tu as fait des études supérieures. Le docteur Dor, lui, qui est un vrai universitaire, il dit rien. Il ne craint pas, lui. Il faudrait une association pour réclamer le 13e mois pour les retraités. Ah oui, je suis d'accord. Il paraîtrait que Mgr de Béranger ne serait pas communiste. Ah bon, bah c'est bien alors s'il paraît. Voilà. Délit de blasphème, vous oubliez que pour nos amis juifs, le blasphème est un crime. Demandez des précisions à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai pas de ligne directe, mais voilà. Merci SDB, vous êtes le seul à nous informer. Donnez-nous votre avis sur le massacre programmé de Saddam Hussein. Je l'ai dit plusieurs fois, je crois pas être le seul à informer. Voilà, on perd son temps. Soyez gentils d'aborder des sujets plus intéressants. Il y a un auditeur qui doit écouter une autre radio.
Il faut écouter la deuxième partie de l'émission.
Que pensez-vous de l'annulation des élections à Vitrolles et à Levallois-Perret? Je pense que ce n'est pas pour les mêmes raisons et que c'est un scandale en ce qui concerne Vitrolles. Très bien, votre invité. Dommage, il est tellement pris par le sujet qu'il parle trop vite. Les patrons sont pour l'immigration parce qu'elle leur permet d'avoir à la disposition une main-d'œuvre doublement sous-payée et le non-paiement des charges sociales. Mais que fera-t-on de cette main-d'œuvre non qualifiée? Bonne question. Le chômage est entretenu depuis longtemps sous les ordres de l'action mondialiste pour déstabiliser la famille et la société afin d'en faire des esclaves obéissants, c'est ce que je dis.
Ça, c'est des trucs qui sont donnés dans des documents par des agents de services spéciaux, d'ailleurs.
Je culpabilise déjà pour n'être pas venu à l'émission de mercredi dernier, jour de l'opération. Alors pour celle d'aujourd'hui, vous me fendez le cœur, dit Victoria. Ne pensez-vous pas que par... Mais la semaine prochaine, elle sera là, je pense. Ne pensez-vous pas que par Internet, une mafia ou un employeur puisse vous rayer d'avance dans les entreprises qui vous concernent et vous empêche de trouver un emploi?
Bon, c'est pas par Internet, j'ai les documents écrits.
Voilà, alors, association lucrative sans but, je crois que c'est Kaltenbach qui a écrit ça, il me semble, aux éditions de Noël. Ce livre correspond à ce que vous dites ce soir. Voilà, bon, j'ai encore beaucoup de messages, mais je peux pas aller plus loin, parce que M. Amiche est en train de me donner des coups de pied dans le genou et tout. Alors, docteur, vous êtes rentré. Vous avez 4 minutes pour nous annoncer que vous revenez la semaine prochaine.
Ah, très bien. Ah, parfait.
Vous savez, ne faites pas le surpris. Vous allez nous parler de votre voyage à...
Ah oui, exact. Alors, oui, parce que j'ai eu cette chance, on peut dire véritable, d'avoir donc suivi le chemin de le Camino francés de la en Espagne, sur les pas de beaucoup de pèlerins. J'ai rencontré 18 nationalités. Et enfin, j'aurais des choses à dire là-dessus.
En plus, vous êtes vraiment la preuve vivante que Compostelle, c'est un miracle, parce que vous avez fait le chemin à vélo.
Oui, j'ai fait. Oui. Alors je dois dire, m'a beaucoup aidé les traces blanches sur la route.
Ah oui, j'imagine.
La route.
Oui.
Non, mais enfin, il y avait aussi autre chose. Non. J'ai quand même encore, un peu Dieu pour me guider. Là.
Mais c'est vrai que vous circulez à vélo dans Paris, ce qui est.
Oui, c'est vrai.
Vous avez vos anges gardiens doivent drôlement avoir du boulot. Oui. Vous reprenez vos activités.
Voilà. Alors justement, nous reprenons nos activités. Alors là, je m'adresse à tout le monde. Nous avons vraiment, et il n'y aura pas de tract, donc je vous en supplie, écoutez-moi, vous de toutes les paroisses, enfin qui pouvez écouter, c'est un appel au secours, il faut que nous soyons nombreux. Je pense qu'actuellement la place est déblayée parce que, enfin momentanément en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'élection en vue, parce qu'il n'y a pas d'affichage, donc vous êtes libre, évidemment il y a peut-être des mariages, comme ça je comprends, mais il faut venir à nos manifestations. Plus nous serons nombreux, plus nous serons écoutés, je pense, plus nous aurons du poids, plus notre prière, je pense, on n'a pas besoin d'être beaucoup peut-être pour prier, mais quand même, je crois que ça ajoute. Alors nous sommes en plein Paris, avant, bon, les gens pouvaient dire, maintenant vous êtes un peu relégués, loin, mais là nous sommes en plein Paris, j'espère que la préfecture ne nous fera pas de soucis là-dessus, nous sommes à Port-Royal, alors je dis exactement l'endroit, c'est au coin du boulevard Port-Royal et du faubourg Saint-Jacques, au pied de la maternité Port-Royal-Baudeloc, station RER Port-Royal. Quand? Alors samedi, c'est pas ce samedi-ci, attention, c'est le samedi 28, un samedi 28 à 14h. Et voilà, en principe c'est pour 2h, 2h15. Et je pense que ça devrait marcher. Je pense que vous m'écoutez et que vous avez décidé de venir contre vents et marées. Et
alors, samedi 28 devant la maternité Port-Royal.
Port-Royal, voilà. Et donc en plein Paris. Et alors au même moment, il y aura une manifestation à Nantes. Alors là, évidemment, je crois que nous n'allons pas jusqu'à Nantes avec la radio.
Bon. Mais... On en reparle la semaine prochaine, docteur, parce que entendu. Là, on a fini. On en reparle la semaine prochaine. Vous viendrez nous raconter votre voyage à bicyclette sur les chemins de Compostelle.
Ah, écoutez, j'en suis
sûr. On va bien savoir comment vous avez fait pendant les côtes. Enfin, on nous expliquer ça.
Et puis, il y a beaucoup à dire sur le
terrain. J'ai deux annonces à faire, je peux. Alors, Pierre Hilar, 28 septembre, signera à la librairie Armes et Racines son livre...
Armes et Racines.
Ah, c'est mieux, Armes et Racines, oui. À Versailles, son livre, Minorité et Régionalisme. Allez voir Pierre Hilar, discuter avec lui, c'est vraiment un personnage exceptionnel et il a des choses très très intéressantes à dire. Et puis, vous savez que j'avais reçu il y a fort longtemps un monsieur Frelat qui avait inventé un appareil tout à fait rigolo qui permettait de soigner les reins en faisant de la bicyclette allongée. Vous vous rappelez pas de ça. Ça avait eu un succès formidable. Beaucoup de gens étaient allés le voir, avaient obtenu des résultats. Alors ça y est, son vélo, je sais pas quoi, est industrialisé maintenant. Et il sera présenté au Salon Vicard, au Parc Floral de Vincennes, les 4, 5 et 6 octobre. Allez le voir, il est au stand Holist. C'est les gens qui font le Boulder Jaquet, pour ceux qui savent. Le Boulder plus la bicyclette couchée, ça va très bien. Et vraiment, il faut faire la connaissance de Frolla. C'est quelqu'un de tout à fait étonnant. Salon Vicard. Parc Floral de Vincennes, 4, 5, 6 octobre. A tout de suite.
Merci. Dans deux minutes, donc, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquet.